La science CQFD, Natacha Triou.
On poursuit notre semaine spéciale, on va s'installer sur la Lune. Pour ce deuxième épisode, quels sont les enjeux stratégiques et géopolitiques de ce retour sur la Lune qui a le droit d'exploiter les ressources lunaires ? Un pays veut affirmer sa puissance spatiale, la Lune est l'objectif numéro 1. La course à la Lune s'accélère et le nombre de pays sur la ligne de départ augmente. Les États-Unis et la Chine ont même l'ambition d'y implanter des bases habitées durables, au pôle sud, là où il y aurait de grandes quantités de glace d'eau. Si la Lune appartient à tous depuis le traité sur l'espace de 1967, il y a un flou juridique. Aucune loi internationale n'encadre l'exploitation des ressources lunaires. Houston, on a un problème. Lune, qui veut sa part du croissant ? Isabelle Sourbès-Verger, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géographe, directrice de recherche CNRS, spécialiste des questions de politique de l'espace et l'autrice de l'ouvrage « Géopolitique du monde spatial » paru en 2023 chez aux éditions Erol. Et bonjour Philippe Aquileas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de droit public, directeur de l'Institut du droit de l'espace et des télécommunications à l'Université Paris-Saclay. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez. Vous pouvez nous suivre sur les ondes, mais aussi sur le web, sur franceculture.fr, mais aussi sur Twitter, sur X, sur notre fil @sciencecqfd avec notre live tweet qui commence tout de suite. Alors comment la colonisation de la Lune et l'exploitation de ces ressources sont-elles régulées ? Quelles sont les conditions de cette exploitation future ? Va-t-on vers une économie lunaire ? Et dans ce contexte, quelle est la place du privé ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. On commence avec notre archive du jour. Après l'essoufflement de la course à l'espace, la Lune est de nouveau au cœur des enjeux spatiaux internationaux. Nous sommes en 2004.
Nous sommes en 2020, à 380 000 km de notre planète. Après s'être délectés de ce joli clair de terre, les humains de la colonie lunaire entament une nouvelle journée de travail. Au programme, s'entraîner pour de futurs voyages vers Mars, exploiter les ressources minières et installer de nouveaux télescopes. Bien sûr, tout cela n'est pour l'instant qu'un fantasme, celui de George Bush. Mais ce qui est sûr, c'est que retourner sur la Lune pourrait avoir une certaine utilité.
De la face cachée de la Lune, on peut voir l'univers bien plus loin qu'on ne pourrait le faire d'aucun télescope spatial ou terrestre d'ailleurs. Donc ça c'est de la vraie science et on peut le faire que de la face cachée de la Lune. Et c'est aussi notre futur dans la mesure où on y trouvera des ressources qui nous permettront de suppléer à l'épuisement des ressources énergétiques qu'on utilise aujourd'hui, notamment l'énergie fossile, etc.
Quand en 1969, Neil Armstrong commente les premiers pas de l'homme sur la Lune, le grand public est fasciné. Mais trois ans plus tard, en 1972, après quelques cabrioles et dérapages à bord de la Jeep lunaire, l'exploration de notre satellite n'intéresse plus personne. Les Américains l'abandonnent donc définitivement, faute de financement. C'est pourquoi, pour y retourner, l'Amérique aura cette fois besoin de ses partenaires.
Voilà, le trésor de TF1 en 2004. Alors, il ne se passe pas grand-chose sur la Lune pendant des décennies, Isabelle Soubès-Verger, mais voilà, à partir de 2004, les Américains veulent se relancer dans l'espace pour compléter ce qu'on vient d'entendre. Quelles sont les raisons de ce retour vers la Lune ?
Oui, alors je dirais que c'est quand même dans cette archive quelque chose d'intéressant, c'est cette vision qui est toujours tournée vers les États-Unis et qui ne pense que à travers la question des États-Unis. Parce que quand vous dites en 1972 la Lune n'intéresse plus personne, en réalité, c'est pas vrai. En 1972, les États-Unis et l'Union soviétique d'une certaine manière renoncent à cette espèce de course que les États-Unis avaient mise en avant, mais il y a d'autres puissances spatiales qui arrivent derrière et qui, elles, entendent bien apprendre à aller autour de la Lune, sinon à se poser sur la Lune, puisque de fait, seuls les États-Unis ont jamais ambitionné de faire marcher des humains sur le sol lunaire. Donc, en réalité, vous avez quand même des missions qui sont des missions japonaises, des missions européennes, qui tentent, parce que tout simplement la Lune est le seul satellite naturel de la Terre. Hein, et donc, c'est le plus proche. Et quand vous voulez apprendre à faire de l'exploration, effectivement, il y a une dimension aussi psychologique qui est particulière pour la Lune. Et il y a un certain nombre d'échecs, effectivement, parce que c'est difficile, tout simplement, de faire de l'exploration. Et progressivement, on voit se distinguer, je vais dire, trois grandes puissances. D'abord, l'Europe et le Japon, puis la Chine. Et quand en 2004, Bush relance cette idée d'une course à l'espace, d'ailleurs au passage, vous entendez qu'il annonce qu'en 2020, ça y est, tout le monde est en train de travailler sur la Lune. Bon, visiblement, ça va prendre un petit peu plus de temps que ça. Mais quand Bush lance cette grande exploration, Space Exploration Initiative, en réalité, c'est beaucoup pour des raisons de politique intérieure. Et c'est parce que, précisément, on commence à voir la Chine s'intéresser à la Lune, alors qu'elle, c'est dans une étape normale de son développement. C'est pas du tout pour être en compétition avec les États-Unis. C'est parce qu'elle commence à acquérir de la maturité. En 2003, c'est son premier vol habité. Donc, en 2004, on poursuit dans cette voie de l'exploration. Et donc, aux États-Unis, Bush cherche un programme qui relancerait à la fois une image de leadership des États-Unis, une image de supériorité technologique. Mais, de fait, il ne mettra pas d'argent du tout dans le programme. Et il faudra effectivement attendre 2014 pour que véritablement la Lune soit officiellement à l'agenda.
Bush lance en 2004 cette exploration. Puis en 2019, le gouvernement de Donald Trump annonce le retour sur la Lune en 2024.
Alors, juste pour revenir sur cette archive, cette date est très intéressante parce que dans le document de politique spatiale présenté par le président Bush, pour la première fois, il fait un appel à la sphère privée en expliquant que les États-Unis ne pourront pas, sur des seuls fonds publics, repartir sur des programmes lunaires. Et il y a un passage qui, nous, juristes, nous avait beaucoup interpellés à l'époque. Il explique que pour amener le privé à s'intéresser à la Lune, il faut trouver des moyens pour que le privé puisse récupérer ses investissements, y compris par des droits de propriété adéquats. Et déjà à l'époque, il ouvrait légèrement la porte vers la question de l'appropriation des ressources par le privé. Il avait bien compris que pour que les États-Unis puissent à nouveau briller sur la Lune, eh bien cela devait passer par ce fameux partenariat avec les entreprises privées.
Oui, c'est ça. Puis en 2004, le terme New Space n'existe pas encore.
Exactement.
Il commence. En 2004, c'est vraiment le moment où on commence à le voir pointer. Mais ce sont les difficultés. Enfin, Elon Musk et Jeff Bezos existent. Ils ont créé leurs entreprises tout juste. Hein, et ils sont en pleine difficulté. Et ils ne vont véritablement démontrer leur existence qu'en 2014, grâce quand même au programme de la NASA qui va être relancé pour le coup par Obama, ce qui peut être un peu étonnant a priori, mais qui se comprend quand on regarde quelles étaient les priorités d'Obama. Et Obama va imposer à la NASA de passer en quelque sorte des contrats de sous-traitance à des acteurs commerciaux, de manière à diminuer les investissements que le public va faire dans quelque chose qu'il considère comme de l'infrastructure et qui serait par exemple des lancements de type assez classique, sauf qu'aujourd'hui, que ce soit SpaceX ou d'autres, on parle quand même de systèmes spatiaux qui vont d'accès à la Lune, qui sont développés par des acteurs privés. Donc on est allé encore plus loin que ce qu'Obama prévoyait initialement.
Je reviens sur les objectifs Lune aujourd'hui. En 2024, pourquoi retourner sur la Lune ? Et est-ce qu'on peut dire que finalement c'est un peu un passage obligé pour l'affirmation d'une puissance ?
Mais pourquoi retourner sur la Lune ? C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas d'autre endroit où aller si vous voulez faire une activité qui ne soit pas une simple activité, je dirais, d'infrastructure par rapport à la Terre. Quand vous avez des satellites de télécom, quand vous avez des satellites d'observation de la Terre, ce que vous faites, c'est de GPS, de localisation, vous rendez un service à la Terre et vous l'aidez à développer des activités diverses et variées, et on voit bien toutes les applications aval. Si vous êtes un pays en voie de développement, le spatial, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que ça vous évite de devoir développer des systèmes terrestres que vous ne maîtrisez pas forcément. On pense à des États comme la Chine ou l'Inde, qui sont de très grands États et qui n'ont pas d'infrastructure terrestre. Pourquoi revenir sur la Lune ? Revenir sur la Lune, là, pour le coup, c'est de faire de l'espace pour l'espace. C'est comme ça un petit peu qu'on l'emploie dans le jargon. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'espace pour la Terre, mais c'est de l'espace pour l'espace. On imagine qu'on va pouvoir rester dans l'espace. Alors, avec des robots et avec des hommes, parce qu'il y aura peut-être quelques hommes, mais il y aura surtout beaucoup de robots. Et la question, du coup, qui se pose, c'est si vous êtes dans l'espace pour l'espace, il faut trouver les moyens d'y vivre sans tout faire venir de la Terre. Et ça va être assez compliqué.
Philippe Aquileas.
Oui, en effet. Donc, on voit ici qu'on commence à penser en termes d'économie lunaire, c'est-à-dire de développer des activités qui vont concerner directement l'exploitation de la Lune ou l'installation sur la Lune, parce qu'on va s'y installer aussi à des fins scientifiques. Mais pour pouvoir s'y installer durablement, bien, il faut des ressources, il faut des moyens, et donc il faut faire fonctionner un écosystème autour de la Lune. Et ça, c'est une nouveauté dans le développement de l'économie spatiale.
En 2022, les dépenses spatiales dans le monde représentent près de 100 milliards de dollars. Isabelle Sourbès-Verger, quels sont les pays sur la ligne de départ pour cette nouvelle course à l'espace?
Alors, sur les 100 milliards de dollars, bon, le chiffre, on va dire qu'on est en train de parler un petit peu à la louche, mais vous avez plus de 60 milliards de dollars qui est représenté par les États-Unis, et là-dedans, plus de la moitié qui est représentée par un programme spatial militaire. Donc, vous voyez bien que les grosses dépenses qui se font dans le spatial, ça ne concerne pas la Lune. Le seul État qui met véritablement beaucoup d'argent aujourd'hui sur son programme lunaire, surtout d'ailleurs sur les moyens de lancement aujourd'hui. Bon, aller sur la Lune et envoyer des hommes et des robots sur la Lune, c'est lourd, c'est compliqué et ça demande d'être extrêmement fiable. Ce sont les États-Unis qui sont avec un budget sur la Lune aujourd'hui qui est à peu près de l'ordre de 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars, quand même, pour donner un ordre de grandeur, c'est à peu près le budget spatial européen dans sa totalité. Alors, j'exagère, c'est plutôt 15, mais en réalité, vous voyez bien qu'on est dans des ordres de grandeur qui n'ont rien à voir. La Chine est probablement autour aussi de 15 milliards de dollars. Mais un pays comme la Russie a 5 milliards de dollars, pas plus. Et le Japon, 5 aussi. Donc, si vous voulez, vous avez une coupure, un hiatus vraiment très, très grand entre les États-Unis et le reste du monde. Surtout si vous imaginez, en faisant un petit calcul mental, que c'est comme ça depuis 50 ans, depuis plus de 50 ans. Les États-Unis dépensent dans l'espace des sommes fantastiques, énormes, ce qui peut d'ailleurs expliquer aussi pourquoi les États-Unis ont tendance à penser que l'espace, c'est leur lieu privilégié d'expansion. Et vous avez des notions comme le contrôle de l'espace, par exemple, qui sont des notions qui sont beaucoup plus liées à des aspects militaires et de sécurité. Et puis, vous avez la Lune. Et tout ça, ça s'inscrit dans l'idée que c'est finalement aux États-Unis de définir les règles du jeu parce que ce sont les premiers qui sont capables de faire ce qu'ils font dans l'espace. Et de fait, effectivement, leurs réalisations sont complexes et technologiquement bien supérieures à celles des autres.
On voit aussi quand même des pays qui se repositionnent dans cette course, Isabelle Sourbès-Verger, par exemple l'Inde, grâce à sa mission Chandrayaan 3 en août dernier, qui pose un module sur le pôle sud de la Lune qui était jusqu'alors inexploré.
Alors, elle se repositionne pas, elle se positionne. C'est-à-dire que dans le spatial, vous avez toujours deux choses. C'est un décalage temporaire entre le moment où vous commencez vos programmes et le moment où vous êtes capable de faire quelque chose. Et puis, vous avez besoin d'un socle scientifique et technologique et financier qui vous permet de vous lancer dans l'activité spatiale. J'aime pas beaucoup le terme de conquête spatiale. Et pour l'Inde, elle commence véritablement à avoir son premier lanceur, qui est un tout petit lanceur, en 1981. Donc, vous voyez bien qu'en 1961, il y avait déjà Gagarine. Donc, elle a déjà 20 ans de retard. Ensuite, l'Inde, c'est un cas très intéressant parce qu'elle a toujours privilégié les applications. C'est-à-dire que vraiment, elle a considéré que le spatial devait permettre, d'une part, de développer l'économie indienne, mais aussi et surtout de lutter contre la pauvreté, de lutter contre l'illettrisme. Et il y a en Inde, véritablement, une utilisation des ressources avec de la télémédecine, du téléenseignement, qu'il n'y a dans aucun autre pays au monde, comme ça, au début de son programme spatial. Et puis, le temps passe, nous sommes maintenant en 2020, et l'Inde, à la fois, est devenue une beaucoup plus grande puissance économique et technologique, et puis, avec le Premier ministre Modi, elle a soit aussi des ambitions internationales, et donc, elle décide que maintenant, il est temps pour elle de sortir des domaines des applications et de passer à des domaines à la fois plus prestigieux et moins directement rentable, je dirais. Et l'exploration qu'elle va faire pour la première fois qu'elle se pose sur la Lune, ça va être effectivement là où tout le monde a un peu envie d'être en ce moment, parce que ça va lui donner aussi de la lisibilité par rapport à la Chine.
Le pôle Sud, on y reviendra plus récemment dans la nuit du 19 au 20 janvier 2024. Il y a l'agence spatiale Nippon, la JAXA, le Japon, qui réussit l'alunissage de son module SLIM et qui devient donc le cinquième État à connaître la réussite d'une telle opération après les États-Unis, l'URSS, la Chine et l'Inde. Philippe Aquileas.
Oui, en effet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au Japon, on a aussi maintenant des start-up. Hein, donc, on a des acteurs privés, nouveaux, qui investissent le terrain de l'économie lunaire, comme eSpace, par exemple, ou d'autres compagnies privées. Et donc, on voit cet engouement aussi pour le New Space à la japonaise, qui se concentre sur la Lune, pour, en tout cas pour sa dimension très visible. Donc, aujourd'hui, eh bien, c'est pas simplement des États avec des budgets publics et des agences qui sont sur la ligne de départ. On a aussi beaucoup d'entreprises privées qui comptent s'établir ou travailler en lien avec cette nouvelle économie.
Oui, Isabelle Soubrez.
Au bémol près, je dirais que ces entreprises privées comptent sur la puissance publique pour les financer, parce que ce seront les seuls qui pourront leur donner les moyens d'avoir un premier business model. Et ça, c'est très intéressant. Quand vous lisez les études que la NASA finance, hein, parce qu'elle a besoin de prouver qu'une fois qu'elle aura dépensé des milliards, il y aura derrière de l'activité privée et qui sera une activité potentiellement rentable, parce que ça aussi, dans l'imaginaire américain, il faut que l'État ouvre la voie à des entrepreneurs privés. Hein. On revient sur la conquête de l'Ouest et tous ces grands principes. Les rapports qui sont sortis disent qu'il faudra quand même 20 ans d'investissement public avant que les firmes privées puissent espérer générer des bénéfices distincts. Donc on est vraiment... Mais ça se comprend. Enfin, je veux dire, c'est pas négatif de ma part, mais ce que je veux dire, c'est que ce développement de l'économie privée par rapport à la Lune n'aura de sens que si les États-Unis réussissent à tenir un pari d'un engagement budgétaire lourd sur la Lune pendant minimum 15 à 20 ans. Et là, je pense qu'il y a peut-être quand même une fragilité si on regarde ce qu'est l'évolution du monde sur Terre.
Voilà, côté budget. Alors, côté juridiction, quelles sont les lois qui régissent l'exploitation de la Lune? Quels sont les cadres juridiques et les zones de flou? Restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triot.
En direct sur France Culture avec Isabelle Sourmès-Verger et Philippe Aquileas. Deuxième épisode pour notre semaine spéciale, on va s'installer sur la Lune. Un épisode sur le colonialisme lunaire et sa juridiction. On vient de voir que la Lune est devenue un rite de passage pour tout État qui souhaite prétendre au titre de puissance spatiale. Depuis 1967, Philippe Aquileas, il existe un cadre juridique qu'est le traité sur l'espace. À l'origine, ce traité sur l'espace, il est signé parce qu'on a peur, pendant cette course à la Lune, on a peur que la Lune devienne une zone de guerre et on souhaite éviter que le premier arrivé ne plante son drapeau pour garder la Lune pour lui. C'est à peu près ça l'idée. Et aujourd'hui, le traité de l'espace n'est pas remis en question.
Non, alors c'est un traité, d'abord c'est un des plus beaux textes du droit international parce qu'il offre une approche humaniste, une lecture peut-être idéaliste de ce que doit être notre société. L'objectif des rédacteurs du traité de l'espace, dans cette vague d'optimisme un peu technologique, c'est d'éviter de reproduire dans l'espace les erreurs commises sur Terre. Et c'est la raison pour laquelle le traité contient trois grands principes. Je dirais d'abord le principe de non-appropriation de l'espace et des corps célestes, pour éviter un peu la course au profit. Le principe de l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique et de l'utilisation exclusivement pacifique de la Lune, c'est-à-dire aucune activité militaire sur la Lune. Et enfin, le principe d'une liberté placée au service de l'intérêt commun. Donc on voit trois piliers qui vont façonner le cadre juridique des activités spatiales et des activités lunaires. C'est un traité qui a été porté par les États-Unis et l'URSS et qui a reçu l'assentiment des autres pays, y compris des pays en développement, car le traité explique que tous les États sont libres d'explorer la Lune, sont libres d'utiliser la Lune, quel que soit leur stade de développement. Donc on a ce texte qui est fondamental, qui est structurant, et qui n'est pas remise en cause. Sauf que, si vous lisez bien entre les lignes, le texte ne traite pas de la question des ressources de la Lune. On parle de la Lune, on parle des corps célestes, on parle de la non-appropriation de la Lune, et tout le monde est d'accord sur ce point, sauf que la question reste en suspens en ce qui concerne les ressources.
Et rien n'encadre, comme vous dites, hein, l'exploitation des ressources des minerais lunaires, par exemple, dans ce traité. On est en 67. On a une tentative un peu plus tard pour encadrer tout ça en 1979 avec l'accord sur la Lune et les autres corps célestes, mais qui introduit le concept de patrimoine commun de l'humanité. Mais ce traité a eu beaucoup moins de succès.
Et oui, en effet, un traité...
Parce que le traité de l'espace, on ne l'a pas dit, hein, ça a été signé quand même par 136 États.
Ouais, 1967. C'était un traité cadre, c'est-à-dire que c'est un traité qui pose des grands principes et qui est amené à être complété par des accords spécifiques. Et sur la table des négociations, l'Argentine propose un accord sur la Lune et les autres corps célestes de notre système solaire. Et au cœur de ce projet, le principe de patrimoine commun de l'humanité, qui à l'époque est un principe totalement nouveau en droit international, à travers le principe de patrimoine commun de l'humanité, eh bien, on veut exprimer le fait que la Lune et ses ressources appartiennent à tout le monde. Nous sommes tous donc propriétaires de la Lune et de ses ressources. Une approche donc très portée par la mouvance tiers-mondiste à l'époque, hein, donc les pays en développement, les pays du Sud, et qui ne satisfait pas du tout l'URSS à l'époque, car pour l'URSS, le débat est clos avec le principe de non-appropriation de la Lune, et pour l'URSS, cela couvre aussi les ressources. Les États-Unis, en revanche, ont une approche beaucoup plus intéressante puisqu'ils ne considèrent pas le texte comme dénué de tout fondement. Ils sont d'ailleurs prêts à soutenir le principe de patrimoine commun de l'humanité, mais considèrent qu'il est trop tôt, en 1979, pour poser le régime qui va gouverner l'exploitation de ces ressources. Donc, le compromis, c'est d'adopter le texte avec le concept de patrimoine commun de l'humanité, en précisant que lorsque les ressources de la Lune seront sur le point d'être exploitables, les États partis au traité devront se mettre autour de la table pour adopter un cadre juridique international. Mais voilà, la position qui est défendue par le département d'État américain ne convient pas du tout à la communauté spatiale aux États-Unis. Et lorsque les diplomates américains reviennent à Washington avec le projet, eh bien, c'est un refus catégorique de la part d'une industrie spatiale qui est extrêmement affectée par la fin du programme Apollo, qui ne croit plus en son gouvernement et qui ne souhaite pas signer un chèque en blanc en disant bah, « si demain on a un budget pour retourner sur la Lune, on va partager les bénéfices avec la communauté internationale ».
Isabelle Sourbès-Verger.
Oui, on a aussi effectivement l'épisode de la guerre froide, c'est-à-dire que 1975, ça va être le moment où précisément il y a une détente qui s'effectue entre les États-Unis et l'Union soviétique. Il y a un petit peu le recyclage, on va dire, du programme Apollo, hein, qui n'aura pas été mené jusqu'à son terme, faute de support à la fois du public et du pouvoir politique, qui commence à trouver qu'effectivement, Apollo, ça fait très cher et tout compte fait, on a démontré ce qu'on voulait démontrer, à savoir le leadership américain. Donc, on bloque les deux dernières missions et on va récupérer un des derniers vaisseaux Apollo pour aller avec les Russes dans l'espace, enfin les Soviétiques à l'époque, faire une mission conjointe où on va mettre ensemble un vaisseau Apollo, un vaisseau Soyouz, et chacun des deux va passer les coutils pour se serrer la main. Bon, voilà. Donc, c'est vraiment une symbolique. Ces années 75, c'est vraiment l'idée que dans l'espace, on va essayer de promouvoir plutôt une vision de paix, etc. Et donc, ça, c'est le côté politique, en quelque sorte. Mais effectivement, aux États-Unis, le programme Apollo, c'est un programme qui a généré énormément de développement industriel, de laboratoires scientifiques. Et donc, mais il faut gérer d'un seul coup l'arrêt de ce programme, puisque la navette spatiale ne prend pas tout de suite la suite, et que la station spatiale internationale, que la NASA appelait de ses voeux, faute de pouvoir continuer à avoir des grandes missions habitées, elle aussi n'est pas décidée par le pouvoir politique. Donc, en réalité, jusque dans les années finalement 83, avec la relance de l'IDS, l'initiative de défense stratégique par Reagan, la communauté spatiale américaine se sent un peu en perte de soutien politique et économique, et donc ça engendre ce qu'ils ont appelé la crise de l'espace, qui en fait n'est pas une crise de l'espace en tant que tel, mais une des difficultés du monde spatial.
Et dans ce contexte, venir avec un accord sur la Lune qui ouvre la voie à une coopération internationale, c'était pas du tout le bon signal à envoyer à la communauté spatiale.
D'où le flop.
Parce que le Congrès, lui, il va être du côté des industriels et pas du côté du département d'État.
On avance parce que novembre 2015, date charnière, là, les Américains adoptent une loi, le Space Resource Exploration Act, qui autorise là les entreprises américaines à exploiter les ressources des corps célestes et à les commercialiser. Et ça, c'est un moment charnière parce que aussi, trois pays vont suivre les États-Unis après cette date.
Et puis ça, je vais vous dire une chose, on ne l'avait pas vu venir.
Ils surprennent tout le monde.
Il y avait un projet deux ans avant sur l'exploitation des astéroïdes. Celui-là, non plus, on ne l'avait pas vu venir. Et c'est une grosse interrogation dans la communauté des juristes de l'espace, en se disant, mais que se passe-t-il? Comment est-ce que les Américains vont nous justifier cette loi? Et comment est-ce qu'ils osent se présenter à l'ONU en disant, mais nous respectons le traité de l'espace? Alors, l'approche des États-Unis, l'analyse des États-Unis est assez intéressante puisqu'elle part du principe que le traité de l'espace ne mentionne pas les ressources. Donc, le principe de non-appropriation de l'espace et des corps célestes ne concerne pas les ressources. Et en droit international, ce qui n'est pas interdit est autorisé. Donc, les Américains nous expliquent qu'ils respectent complètement la lettre du traité de l'espace. Alors, on peut l'entendre. Sauf qu'en droit international, c'est pas à un État, même si c'est l'hyperpuissance spatiale, d'interpréter les termes d'un traité. C'est à la communauté internationale de se positionner sur ce que doit être le principe de non-appropriation. Et là, les Américains vont jouer très très fort. Ils vont prendre l'ONU de vitesse en posant sur la table les accords Artemis. Je pense qu'on y reviendra.
En tout cas, à la suite de ce Space Act, le Luxembourg en 2017, les Émirats Arabes Unis en 2019, le Japon en 2021, pardon, vont voter des lois similaires. Et en effet, les accords Artemis, ça c'est les États-Unis qui créent ces accords Artemis et qui font signer à leurs partenaires, ce sont des accords bilatéraux, c'est ça?
C'est ça. En fait, c'est une série d'initiatives bilatérales au cours desquelles l'administration américaine va tenter de convaincre ses partenaires que pour participer au programme Artemis de la NASA qui vise au retour de l'humain sur la Lune, il serait peut-être préférable de signer aussi les accords Artemis pour montrer qu'on a finalement la même approche de ce que doit être le droit de la Lune et la régulation des activités sur la Lune. Donc les pays qui sont plutôt, ou les agences qui sont plutôt dans une dynamique de coopération avec les États-Unis vont signer, et puis ça va faire boule de neige. On arrive aujourd'hui avec plus de 30 signatures, c'est énorme, avec des pays qui sont traditionnellement plutôt opposés à la commercialisation de l'espace, comme l'Inde, comme le Mexique. C'est une dynamique très très forte là.
Mais c'est que les industriels ne veulent pas passer à côté d'accords commerciaux qui portent sur la future base lunaire.
Isabelle Sourbeja. Je pense qu'il y a aussi un flou qui est volontairement entretenu par tout le monde, y compris par l'Inde, parce que les accords Artemis, ils définissent un certain nombre de choses, y compris cette zone de sécurité qui serait celle qui garantirait en quelque sorte les activités américaines sur la Lune avec celles de ses différents partenaires. Et ça, ça peut être présenté, les Américains le font ainsi, de manière assez neutre, en disant c'est juste pour éviter tout problème et puis c'est normal, en quelque sorte, de faire un contrôle sur son environnement. Et ils précisent bien qu'il n'y a pas appropriation, puisque, disent-ils, ça sera une zone temporaire aussi longtemps qu'il le faudra. Donc, ça c'est déjà un flou assez intéressant, mais c'est comme ça qu'ils présentent les choses. En revanche, vous avez de l'autre côté la Russie qui a très tôt dénoncé le principe d'une utilisation licite des ressources, et à partir du moment où en droit international ça sera Philippe Alguilla se confirmera, mais vous avez un État qui s'oppose à une interprétation, cette interprétation ne pourra plus être considérée comme devenue par la coutume l'interprétation unique. Alors je suis peut-être un peu plus subtil que ça, mais on va dire que ça peut se dire un peu rapidement comme ça. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que la Chine et la Russie font en quelque sorte une autre contre-proposition à leurs partenaires, qui est de dire, nous on va faire une station lunaire scientifique, Ils exploiteront aussi, d'une certaine manière, des ressources, puisque la question qui se pose, c'est quand même de savoir comment on va faire sur place. Il va bien falloir essayer de générer de l'air, de l'eau, etc. Et donc, on fera peut-être une exploitation, mais on ne donnera pas de propriété commerciale. Et au final, ce que je voulais dire, c'est que quand même, le traité de 67 impose la responsabilité des États. Donc finalement, les États-Unis, en tant qu'États-Unis, endossent le droit de donner à un certain nombre d'entreprises une autorisation, mais ils restent, en tant qu'États-Unis, face à la communauté internationale, responsables de leur position, ce qui complique quand même un petit peu les choses pour la suite.
Philippe Aquiles, ces accords Artemis, il y a quand même des points problématiques sur ces accords-là, notamment par exemple la création de zones de sécurité autour des bases. Ça veut dire quoi, une zone de sécurité autour des bases dans l'espace ?
Alors, c'est l'article le plus détaillé des accords Artemis, puisque là, effectivement, les Américains doivent quand même donner des garanties qu'il ne s'agit pas d'une forme d'appropriation de la Lune par voie d'occupation, ce qui est totalement interdit par le traité de l'espace. Donc on comprend que c'est une zone qui va permettre de développer des activités lunaires sans interférence d'autres activités ou d'autres États. On comprend aussi qu'il ne s'agit pas d'interdire l'accès à la zone. La zone pourrait par exemple être traversée par des rovers d'autres pays ou d'autres missions, mais qu'il pourra y avoir des mesures concrètes pour protéger les activités d'extraction, par exemple, ou d'installation de personnel ou de matériel sur la Lune. Alors ça, c'est intéressant parce que ça ouvre aussi la voie à la question de la police sur la Lune. Qui va faire la police sur la Lune ? Puisque demain, si on a des bases lunaires, il faudra bien avoir aussi des activités de police. Donc, ça, c'est un point sur les bases de les zones de sécurité, en effet, assez problématiques.
Oui, puis l'ONU donc, s'est donc saisie de ces questions en 2016. Aucun consensus n'a abouti. Elle devrait rendre ses conclusions qu'en 2027. Au vu de l'agenda, c'est un peu tard, non ?
Mais c'est ça, c'est le problème. Moi, déjà, le positionnement de l'ONU n'est plus de dire l'exploitation commerciale des ressources est illicite, mais de proposer un régime pour l'exploitation de ces ressources. Donc on voit bien que déjà l'ONU se positionne sur une ligne qui est beaucoup plus proche de celle défendue par les États-Unis que de celle défendue par la Russie. Maintenant, 2027, c'est dans encore 4 ans. Combien d'États vont, ou combien d'agences vont avoir signé les accords Artemis ? Et sachant que l'ONU, aujourd'hui, développe le droit de l'espace en s'inspirant des normes adoptées par l'industrie et les agences. Donc, si demain, nous n'avons qu'un seul modèle normatif, qui est le modèle proposé par les accords Artemis et les États-Unis, eh bien, il est fort à parier que les conclusions de l'ONU mettront en avant ce modèle-là. Et là, il reste une carte à jouer à la Russie, c'est de bloquer l'adoption du rapport final, puisque à l'ONU, pour les questions spatiales, les décisions sont prises par consensus. Si la Russie dit non, le texte ne sera pas adopté.
On continue d'explorer la Lune et ses dimensions géopolitiques. Restez avec nous. Dark Side of the Moon de We Army en direct sur France Culture, car nous parlons du côté obscur de la nouvelle course à la Lune et de son flou juridique. On en parle avec nos deux invités du jour, Isabelle Sourbès-Verger, géographe, directrice de recherche CNRS, spécialiste des questions de politique de l'espace, et Philippe Aquileas, professeur de droit public, directeur de l'Institut du droit de l'espace et des télécommunications à l'Université Paris-Saclay. On vient de voir qu'aucune loi internationale n'encadre l'exploitation des ressources des minerais lunaires. Aujourd'hui, tout le monde continue de se référer au traité de 1967 qui ne mentionne pas cette question. Alors les États-Unis et la Chine comptent donc installer des bases lunaires habitées. Quels sont, Philippe Aquileas, quels sont les sites géographiques pressentis pour le Moon Village côté USA Artemis et celui des Russes et des Chinois?
Bien, si l'objectif est de s'installer de manière permanente sur la Lune, avec des missions habitées, il faut être proche des sources d'eau. Donc, idéalement, le pôle sud de la Lune est présenté comme l'emplacement où on a le plus de ressources en eau, même si cela se présente sous forme d'eau glacée, parce qu'avec cette eau, eh bien, on va pouvoir faire vivre les personnes, mais aussi générer de l'énergie pour les installations, les équipements et les véhicules.
Oui, de l'eau, puis aussi ce sont des régions qui sont continuellement exposées au soleil, ce qui permet d'installer aussi des batteries solaires. Isabelle Sourbès-Verger.
Oui, enfin, c'est difficile d'avoir à la fois de l'eau gelée et du soleil, parce que si le soleil atteignait l'eau gelée, elle dégèlerait et donc vous n'auriez plus d'eau. Donc la difficulté, c'est effectivement de trouver sur les bords du cratère des endroits où poser vos installations pour que vous puissiez commencer à continuer à être alimenté par les panneaux solaires, et de toute façon ça ne suffira pas. Donc se pose aussi la question de l'implantation d'une énergie nucléaire sur la Lune, ce qui est un nouveau sujet qui fait là aussi débat. Mais en tout cas, c'est vrai que cette idée d'aller au pôle sud, ça va supposer qu'on découvre combien il y a exactement d'eau gelée. Et ensuite, comment on sache transformer cette eau gelée? Parce que ce qui est extraordinaire, c'est que on se projette tous dans cette idée qu'on va pouvoir travailler sur la Lune, produire sur la Lune, etc., etc. Mais il va falloir quand même monter des machines sur la Lune, il va quand même falloir installer du matériel sur la Lune. Et ça veut dire des énormes quantités à emporter, à transporter, d'où d'ailleurs ce qu'espère bien Elon Musk, l'utilisation de ce vaisseau SpaceShip qui est un énorme lanceur qui va permettre de trimballer des tonnes de choses. Maintenant, moi, tout ça reste quand même limité en ambition et en réalisation par le rapport entre le budget et la faisabilité technique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est clair que les États-Unis vont poursuivre et vont continuer. À quel rythme? Et est-ce que ce sera une présence permanente ou est-ce que ce sera une présence temporaire? Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, la première partie, c'est d'abord une station autour de la Lune. Parce qu'une station autour de la Lune, c'est la même chose qu'une station autour de la Terre, en un peu plus compliqué.
La Lunar Gateway. On a parlé des accords Artemis. Philippe Aquileas, on n'a pas encore dit quelle était la stratégie de l'Union européenne dans tout ça.
Alors, l'Union européenne est en train de prendre position, d'affiner sa stratégie spatiale. Aujourd'hui, elle est moins intéressée sur les questions lunaires que sur l'économie orbitale, c'est-à-dire que l'Union européenne travaille plutôt sur les questions liées aux satellites de télécommunication, d'observation, de navigation, la question de la connectivité sécurisée. Elle a beaucoup appris de la manière dont on utilise les satellites dans le cadre de la guerre en Ukraine, et elle a un grand projet autour de la gestion du trafic spatial. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'Union européenne a compris que si l'Europe ne développait pas des normes en matière spatiale, demain le droit de l'espace, le droit international de l'espace, serait le droit américain. Donc ce qu'essaye de faire l'Union européenne aujourd'hui, c'est de peser à travers une réglementation spatiale. Donc il y a un projet également en cours de développement à l'Union européenne sur une législation spatiale européenne pour encourager la création de normes européennes qui pourraient servir de modèle. Et alors, un point qui est assez intéressant, c'est que l'UE espère avoir le même impact sur la régulation mondiale qu'elle a eu dans le domaine des données personnelles, avec le RGPD.
Oui, Isabelle.
Et la difficulté, c'est que d'ailleurs, la loi spatiale européenne pour laquelle on était consulté au CNRS, finalement, est suspendue dans l'attente des élections, ce qui est quand même assez étonnant parce que finalement, on arrivait au bout du processus et là, on se rend compte bah, tout qu'on fait, les choses se grippent, ce qui prouve que tous les points de vue ne doivent pas être à l'unisson au sein de la Commission européenne. Mais ça, c'est déjà un élément intéressant et qui prouve l'importance, en fait, que les gens accordent à cette loi. Parce qu'on pourrait penser que, bon, la loi sur le spatial, c'est pas si important que ça, mais en fait, ça l'est. Et l'autre dimension qu'on a tendance à oublier, parce que c'est vrai que le système européen est compliqué, c'est le côté de la recherche et de la technologie qui est menée par l'Agence spatiale européenne. Or, l'Agence spatiale européenne, qui réalise les programmes et qui reçoit les budgets des programmes spatiaux, elle parle d'un Moon Village depuis finalement assez longtemps, avec une vision un peu irénique d'un visage spatial qui serait un village de la coopération, etc., etc. Alors, on est assez loin de ce genre de choses. Et puis, surtout, la difficulté, c'est que l'Europe n'a pas choisi d'investir massivement. Elle va être, évidemment, partenaire de la Gateway, de la station orbitale américaine. Elle a fourni des équipements très importants dans le vaisseau qui va servir à transporter les astronautes sur la Lune. Et elle imagine même de faire des petits habitats gonflables qui pourraient être posés sur la Lune en cas de difficulté au moment d'une mission, par exemple. Il y aurait un problème avec tout à coup des radiations supérieures ou quelque chose, et ils auraient une espèce de tente. Alors, je ne sais pas si ça ressemblerait aux fameuses tentes Décathlon, vous savez, que vous lancez et qui s'ouvrent d'un seul coup et que vous n'arrivez jamais à replier, mais globalement, l'idée, ça pourrait être ça, ça serait de faire des habitats temporaires. Mais pour l'instant, l'Europe, du fait qu'il n'y a pas ce lien immédiat entre souveraineté, prestige, intérêt économique qu'on va trouver aux États-Unis d'abord et dans une moindre mesure en Chine, eh bien, elle a plus de mal à définir une stratégie spatiale lunaire. Et ça, c'est important. Et d'ailleurs, la NRT, pendant plusieurs mois, milite, la Société nationale de la recherche et de la technologie, milite pour essayer de faire avancer une vision européenne de la Lune.
Alors, malgré l'existence de traités internationaux pour réguler la colonisation de la Lune et de l'exploitation de ses ressources, il existe des failles que certains acteurs du spatial utilisent pour assouvir leurs objectifs. Bonjour Céline Lozen.
Bonjour Natacha.
Pour le reportage du jour, vous êtes allée à l'école des hautes études en sciences sociales pour rencontrer un sociologue spécialisé dans la géopolitique spatiale et pour creuser les problématiques de l'appropriation de la Lune.
Oui, Arnaud Saint-Martin enquête dans le spatial, à la fois dans la recherche publique et le privé. Ils sondent le complexe militaro-industriel pour comprendre les stratégies des acteurs qui convoitent la Lune et ses ressources. Ils examinent entre autres la question de la propriété, des conflits et des luttes d'autorité potentielles. Pour résoudre ces questions, il arpente le terrain auprès de scientifiques et d'ingénieurs en essayant d'inférer des principes guidant les actions derrière les discours de conquête.
Moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'éviter la spéculation. Et une bonne partie de l'industrie vit de la spéculation. Mais quand on fait l'histoire longue de ces projections, on se rend compte que l'essentiel n'est pas arrivé. Donc moi, ma stratégie, c'est plutôt d'historiciser, de factualiser. Quand on dit « nous sommes en train de coloniser la Lune », on parle de quoi ? Par exemple, on parle de deux missions américaines qui se sont plus ou moins plantées. Donc on avance quand même de façon assez factuelle, matérielle, bassement matérielle, pour refroidir tout ça. Et je le fais sur la base d'éléments connus du grand public. Donc on fait ce qu'on appelle de la reconnaissance ouverte. Et finalement, les acteurs sont très prolixes en paroles, notamment occidentaux. Alors pour la partie chinoise, c'est plus compliqué. Moi, j'ai des collègues qui travaillent sur ces questions-là. Ils ont plus de mal à se déployer en termes d'expertise, mais certains parviennent quand même à le faire. Donc de la reconnaissance dite ouverte. Et puis après, on a de la chance par moment d'avoir des leaks, des choses qui circulent sur les modèles d'affaires, sur les interactions entre tel ou tel acteur. Ça peut être aussi des révélations de lanceurs d'alerte avec lesquels je suis en contact. C'est aussi beaucoup, et là c'est plus difficile à manipuler, du off, que à force de circuler dans l'industrie, dans les arcanes de la politique spatiale en Europe, aux États-Unis, j'entends beaucoup de choses, et je le dis pas dans mes restitutions, mais évidemment que ça colore mes interprétations. Quand je dis quelque chose sur l'intrication du public et du privé, bon, je l'ai vu fonctionner de très près, par plein de mécanismes sur lesquels je vais pas m'étendre. Donc ça, c'est de l'ordre de la connaissance par expérience du fonctionnement du milieu. Et puis après, il y a tout ce qui échappe, quoi. Tout ce qui est secret défense, tout ce que vous ne pourrez jamais obtenir, y compris en entretien, et surtout en entretien, même en travaillant les gens au corps, Enfin, ils sont tenus par le secret défense. Et là, il faut quand même dire que, par exemple, aux États-Unis, il y a des ingénieurs qui sont en prison aujourd'hui pour avoir révélé des secrets défense. Donc c'est un milieu quand même où on ne plaisante pas, y compris pour le retour sur la Lune. C'est ce qui échappe, c'est un peu la matière sombre de l'enquête, et qui la rend à la fois intrigante et qui participe aussi de mon envie de comprendre toujours plus. Et à un moment donné, et c'est ce qui me rend aussi confiant, c'est qu'on sait. Tôt ou tard, c'est déclassifié. Alors ça peut venir très tardivement. Le programme Corona de la CIA, bon, qui a été mis en œuvre à partir de 59-60, il a été déclassifié en 93. Donc il se pourrait que des choses qui sont en ce moment en train d'être mises en œuvre soient déclassifiées en 2050. Alors je ne sais pas si je serai encore là pour commenter, mais peut-être qu'on en saura plus sur la façon dont tout ça est structuré. Mais disons, la dimension du secret, de la confidentialité, du secret défense industriel, enfin d'État, tout ce que vous voulez, est consubstantielle de l'exploration spatiale, donc c'est pas étonnant que ça participe de l'activation de tout ça, mais en même temps, en fait, moi l'idée, pour déplacer un peu le terrain de l'enquête, c'est d'en faire un objet en soi, le secret comme mode de fonctionnement de ce milieu, et là, bon, je sais pas si je le percerai un jour, mais en tout cas, on avance, on essaye.
Ce qui est intéressant, c'est que vous faites des lacunes et des carences, quelque chose de plutôt moteur, et même si vous n'arrivez pas à formaliser à partir d'éléments tangibles et quantifiables, vous dites que vous vous fiez au passé, donc en prenant du recul, en se fondant sur l'histoire, on a plus de chances d'être juste pour prédire l'avenir.
Bien sûr. Oui, et alors j'irai pas jusqu'à dire que je prédis l'avenir, mais disons qu'il y a la production du futur, c'est une routine sociale. La prévision, l'anticipation, les scénarios du futur, la prospective. Moi, je l'observe, par exemple, au CNES. Je participe à des groupes de travail, de prospective, qui travaillent sur vivre et travailler dans l'espace, sur Mars en 2060, genre de scénarios. Et moi, ça m'intéressait non pas parce que allait se dessiner un scénario plausible, etc., mais en fait, ce qui m'intéressait, c'est comment, au présent, on construit le futur. Et comment ces constructions du futur ont des effets sur la façon dont on produit le présent, la politique spatiale aujourd'hui. Et par exemple, de dire, moi j'étais là en 2019 à Washington quand Mike Pence a annoncé Artemis, et c'était pour les 50 ans d'Apollo, donc c'était très significatif du point de vue politique, et a annoncé sur scène avec Michael Collins et Buzz Aldrin, donc il y avait quand même un poids très symbolique, et il a annoncé Artemis, premier équipage humain en 2024. Pour le sous-texte, c'était pour la fin du second mandat de Donald Trump. Ça s'est pas passé comme ça. Ça sera peut-être pour le second mandat en 2028. Évidemment que ça construit quelque chose. Ça construit un horizon. Ça construit
un programmatique.
Exactement. C'est performatif. Voilà. Et tout le monde doit se mettre d'accord, s'aligner. Évidemment, tout le monde savait dans les coulisses que c'était impossible, hein, que l'industrie était pas prête, la NASA.
Ça génère un élan, une dynamique.
Exactement.
Une émulation,
quoi. Oui, mais ça procède d'une espèce de saut dans le vide, qui est quelque chose de proprement social, hein. C'est à un moment donné, des acteurs consentent à sauter dans le vide tous ensemble, et ça s'appelle la conquête de la Lune 2.0, et ce saut dans le vide, c'est un pur pari, quoi. C'est un phénomène de croyance, c'est à un moment donné un arbitrage politique de dire c'est pertinent, c'est légitime, c'est même crédible du point de vue budgétaire, et on va le faire, et on va mettre en place tout un programme, un grand récit, Artemis, la génération Artemis, et aligner un ensemble d'industriels, d'ingénieurs, de techniciens, de scientifiques, pour un objectif qui se veut atteignable à un horizon temporel. Et de ce point de vue-là, le futur, c'est une construction sociale qu'on peut historiciser. Aujourd'hui, on est en 2024, ça ne s'est pas passé. Et quand on sait qu'un vol de SLS, du Space Launch System, c'est 4 milliards le vol, et que pour l'occupation durable, c'est plutôt une quinzaine de missions, quand même le budgéter, sachant que c'est une partie de l'iceberg, hein, si on déploie des infrastructures, si on a une station en orbite circumlunaire, etc. Genre, c'est énorme. Et puis surtout, il ne faut pas qu'il y ait de mort, hein, parce que s'il y a un mort, c'est fini, on n'en parlera plus. Donc tout ça, c'est un ensemble de briques, de Lego, de mécanos qu'on va assembler au fur et à mesure avec une volonté politique qui doit s'ajuster à une vision. Et une vision, ça aussi, c'est un terme endogène que j'essaie de comprendre, hein, depuis Kennedy, à une vision spatiale, etc. Et tout ça, c'est des construits politiques. Et parce que c'est construit, bah, ça peut être déconstruit, et puis ça peut disparaître.
Merci Céline Lozen pour ce reportage. Isabelle Sourbès-Verger, une réaction à ce qu'on vient d'entendre.
Oui, je pense que le plus intéressant, c'est de poser la question un petit peu de jusqu'où un construit politique peut tenir. Et ce qu'évoque Arnaud Saint-Martin, c'est essentiellement, et c'est ce qu'il dit, le cas américain. C'est-à-dire que dans le cas américain, vous avez un secteur industriel pléthorique, qui est un secteur industriel qui reçoit une manne budgétaire depuis très longtemps, et qui compte sur cet investissement supplémentaire pour continuer à développer l'innovation, développer des technologies, et à travers des start-up ou autre, continuer à faire du capitalisme de manière tout à fait classique, avec des introductions en bourse, etc., etc. Donc, si vous voulez, cette vision de l'exploration lunaire, c'est en quelque sorte un apport supplémentaire au développement économique des États-Unis, qui tente d'avoir une longueur d'avance sur le reste du monde. Parce que c'est ça aussi qui est important. C'est que si vous investissez beaucoup dans des technologies complexes, eh bien, on ne sait pas très bien effectivement si ces technologies répondront à tous vos espoirs, mais en tout cas, elles vous permettront d'avoir pris de l'avance. En revanche, pour ce qui est de la notion du secret, oui, bien sûr, mais après, on voit bien dans l'interview qu'il évoque aussi des aspects militaires, mais ce n'est pas tellement la Lune qui est concernée. Le secret, aux États-Unis comme ailleurs, ça concerne un petit peu tous les nouveaux secteurs où on pense qu'il peut y avoir de la concurrence. Et en tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que la vision chinoise, par exemple, mais aussi la vision indienne, sont des visions qui sont quand même très différentes.
Philippe Akideas.
Oui, alors c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de rappeler quand même le lien entre le spatial et le militaire, et ce, dès le début de l'aventure spatiale. Les technologies spatiales sont des technologies militaires, donc les technologies qui demain vont être développées pour exploiter la Lune ou ses ressources, s'installer sur la Lune, vont être aussi de nature duale, c'est-à-dire qu'elles peuvent servir les besoins de la défense.
Oui, les technologies spatiales sont militaires pour un certain nombre de pays dans le domaine des lanceurs, mais si vous prenez l'Inde, c'est pas le cas. Donc je pense que c'est un tout petit peu dangereux de voir cette vision des choses. C'est vrai que les missiles ont donné lieu aux lanceurs, mais c'est pas non plus universel. En tout cas, ça serait dommage de terminer sur ça. En revanche, les aspects citoyens et les enjeux citoyens de la conquête lunaire, ça me paraît vraiment une grande question.
Et en plus, Isabelle Sourbès-Verger, on a consacré toute une émission sur ces questions-là. Et donc, j'invite nos auditeurs à prolonger cette écoute sur ce sujet-là. On n'est pas loin de la fin de cette émission. Et je ne voudrais pas qu'on termine ce podcast avec cette question, la question du droit international privé. Ça, c'est une question, la question du droit international privé dans l'espace, ça se pose. Et ça aussi, c'est quelque chose de nouveau, finalement.
Alors, ça existe depuis le développement d'une économie spatiale parce que on a tout un champ nouveau qui s'est installé dans la doctrine qui est celui des contrats spatiaux. Contrats de lancement, contrats de mise à poste, contrats de satellites, contrats d'achat de satellites. Et puis, au fur et à mesure qu'on va avoir des vols privés habités, il va falloir également réfléchir au droit du transport spatial habité comme on a un droit de l'aviation. Donc, on voit progressivement que des questions de droit privé sont intégrées à la dynamique juridique spatiale. Et ça, c'est très intéressant. Et ça ouvre un nouveau champ également scientifique pour les juristes. Et j'invite tous mes collègues de droit privé, de droit international privé, à s'intéresser à la question spatiale.
Isabelle Sourbès-Verger.
Oui, il y a d'ailleurs déjà des doctorants qui commencent. Ouais. Il y a Alban Guillaume-Arche qui était le coordonnateur justement de l'Objectif Lune, qui était ce travail de la NRT que j'évoquais, qui fait une thèse justement sur l'application du droit international privé. Et là aussi, c'est quand même une forme de banalisation des activités spatiales si on considère que finalement, c'est le droit terrestre qui va s'appliquer à un milieu particulier. Moi, en tant que géographe, j'insisterai juste sur le fait que c'est difficile quand même de faire l'impasse sur le fait que vivre sur la Lune, ça ne va pas être très facile et qu'il ne faut quand même pas oublier que ce soit les radiations, que ce soit le froid, le chaud, la poussière du régolithe, etc. etc. Les défis technologiques et donc financiers, ils sont quand même assez énormes.
Ah, les défis technologiques. Vous venez d'annoncer notre épisode 3, l'épisode de demain, qui se consacrera autour de ces questions-là, justement, où il sera aussi question des réacteurs nucléaires lunaires. Tout ça, ça paraît être de la science-fiction. Merci beaucoup. On arrive, comme chaque jour, avec la chronique, enfin, à la chronique avec science, avec Alexandra Delbo, dans quelques secondes. Mais avant ça, pour prolonger l'écoute, je vous invite, chers auditeurs, chères auditrices, à vous tourner vers le livre d'Isabelle Sourbès-Verger, Géopolitique du monde spatial, qui est paru donc en 2023. Merci à vous deux. Il est temps de retrouver la chronique du jour. Aujourd'hui, Alexandra Delbo nous parle de la sous-estimation des effets du réchauffement des océans. C'est la chronique avec science.
Quelles sont les conséquences du réchauffement de l'océan et de son acidification sur la vie marine? Ce sont deux des grandes manifestations du changement climatique. D'un côté, l'océan absorbe une grande partie du réchauffement de l'atmosphère, ce qui provoque une hausse globale des températures de l'eau. On en a entendu souvent parler lors des canicules marines l'année passée, mais même en dehors de ces événements extrêmes, c'est un phénomène continu et global. De l'autre, l'excès de CO2 atmosphérique se dissout dans les eaux planétaires, ce qui diminue le pH et augmente donc l'acidité de l'océan. Ces changements environnementaux ont des effets sur les espèces, à l'échelle individuelle c'est certain, sur le déplacement des poissons par exemple, le blanchiment des coraux ou encore la prolifération des micro-algues. Mais à l'échelle globale, les résultats peuvent sembler parfois contradictoires. Joachim Claudet est directeur de recherche CNRS au CRIOB et co-auteur de cette étude parue dans Nature.
Il y a une très grande diversité de formes de vie dans l'océan et donc nécessairement une manifestation en réaction aux effets du changement climatique très diversifiée. Par exemple, le changement de température de l'eau conduit à des effets différents selon que les espèces peuvent se déplacer ou non, par exemple. Ensuite, un deuxième élément, c'est que les manifestations, par exemple, de l'acidification vont être différentes selon que les organismes ont besoin de calcification, par exemple certains mollusques qui ont des coquilles, ou des organismes qui n'ont pas besoin de cette calcification pour leur squelette, par exemple. Et quand on dit qu'il y a des résultats contradictoires, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on voit qu'il peut y avoir des choses qui sont mauvaises pour la survie, mais bon pour le métabolisme, positives sur la croissance, mais négatives sur le développement. Et donc, il est très difficile de faire un état des lieux générique qui concerne toutes les diversités des formes de vie, où on puisse généraliser de manière sûre la directionnalité des effets, c'est-à-dire si c'est positif, négatif, sur l'ensemble des paramètres dont je viens de vous parler.
Alimentation, croissance, comportement, reproduction, survie. Il y a tout un ensemble de catégories de réponses possibles, souvent classées en positives ou négatives. Je vous donne un autre exemple. Par positive, on peut penser à l'augmentation de la disponibilité alimentaire. Avec la prolifération des micro-algues, certains coquillages ont plus à manger. Mais sortir pour aller manger est en soi un risque pour la survie. Alors, est-ce que la somme de ces réponses comportementales est positive, négative ou nulle? C'est là où c'est un petit peu contradictoire. Donc pour s'affranchir des additions et soustractions, cette étude propose de regarder non pas le résultat, mais la tendance sous la forme d'une méta-analyse. On en parle souvent ici dans le domaine de la santé, quand on accumule plusieurs études pour augmenter la taille de l'échantillon et sa force statistique. Ici, c'est pareil, mais avec les tendances de chaque paramètre, alimentation, survie, reproduction, physiologie, comportement, développement, dans quelle direction va chacun de ces paramètres face au réchauffement de l'océan ou son acidification. Résultat, les réponses des poissons et invertébrés face au changement climatique ont été très largement sous-estimées.
Donc on n'a pas uniquement considéré les réponses positives ou négatives, on s'est dit un changement par rapport à la normale, s'il est significatif, il va potentiellement apporter des modifications dans la biologie, dans la physiologie de l'espèce et dans la réponse de l'écosystème. Et quand on a fait ça, on s'est rendu compte qu'on avait pu sous-estimer de manière extrêmement importante, à plus de 2 fois, la réponse des écosystèmes aux effets du changement climatique. Parce que quand on fait ça, on prend en compte 2 fois plus de réponses que si ça n'avait pas été le cas. À ce moment-là, on voit des effets du changement climatique sur les écosystèmes bien plus importants que ce qu'on aurait pu penser. Prenons l'exemple de la croissance. Croître plus vite et donc avoir besoin potentiellement de plus, mais peut-être pendant une courte période, quelle va être l'implication sur les écosystèmes? Ça, on ne le sait pas encore. Une augmentation du métabolisme, quelle va être l'implication en chaîne sur les écosystèmes? On ne le sait pas encore bien.
Les inconnues sont donc encore nombreuses. C'est pourquoi on a besoin de savoir comment ces modifications, comment ces déviations par rapport à la normale vont influer l'écosystème entier. Et pour cela, il faudra tout autant mener des études à l'échelle individuelle, espèce par espèce, que des études globales comme ces méta-analyses.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la science CQFD. Alexandre Morales, Noémie Maguet de Saint-Vulfran, Céline Lozen, Garance Prima Agnolo, Bruno Sansini, Antoine Beauchamp. À la réalisation, Hélène Trigueros. À la technique aujourd'hui, Florent Bujon. Vous pouvez nous écouter partout à toute heure en podcast sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France et nous suivre sur Twitter @sciencecqfd. Chiche, c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.